Lizzie présente Les fils du pêcheur de Grégory Nicolas, lu par Dan Herzberg. À Béatrice, ma promesse, pour Marcel et Apolline, vous pouvez faire du bruit maintenant. Aux pêcheurs et à ceux qui les attendent. Prenez un garçon, 25 ans, 30 ans, n'importe lequel. 9 fois sur 10, il va vous dire avec des larmes que son père était une merveille. Le plus beau sujet du roman photo qu'on ait jamais vu. 9 fois sur 10. Et encore la 10e, il faut vraiment que le vieux ait massacré le restant de la famille à coups de hache ou quelque chose, sinon vous n'y coupez pas. Sébastien Japrisot, L'été meurtrier. Le roman d'Arwil. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de l'appeler Arwil. Je ne lui ai jamais demandé. On prononce Arwil. Si on veut avoir l'accent, il faut appuyer sur le « il ». Ça signifie quelque chose comme coquin ou sacré numéro. Ah, lui, c'est un Arwil. Qu'on dit d'un enfant et celui d'en face comprend tout de suite à quel genre de gamin on a affaire. Pas besoin de parler couramment breton pour ça. Quand on lui demandait s'il parlait breton, notre père répondait « Oh, je baragouine 4 ou 5 mots, pas plus. » C'était vrai. Il disait « pocket » pour parler du poisson, « pencalette » pour les têtus, « torpen » pour les emmerdeurs, « vriton » pour ceux avec un nez en trompette, « edagoukest » pour nous ordonner d'aller au lit. Il disait aussi « kenavo » quand il partait, mais ça ne compte pas. Tout le monde utilise « kenavo », même les touristes, même les parisiens, même moi. C'est tout pour le lexique. Le breton était pourtant la langue maternelle de ses parents, mais ils ne le lui ont pas transmis. Il paraît que quand il s'engueulait en breton, c'était mauvais signe. Il valait mieux rester dans sa chambre sans broncher et attendre que ça se calme. Notre grand-père était gendarme. À son retour d'Algérie, il menait ses enquêtes de voisinage en breton plutôt qu'en français, pour Amadou et les gens du coin. Ça les rassurait. On a retrouvé un de ses carnets à l'intérieur d'une sacoche en cuir qui sentait l'humidité. Il y avait noté d'une écriture que je trouve élégante, quoique un peu penchée, à propos d'un homme. Individu à surveiller. Tendance à l'intempérance en auto. Et à propos d'un autre, ancien combattant, vagabond. La vie de notre père a été bouleversée un 4 février. Notez bien. C'est un jour qui a tout changé. Je vois sa main. Elle est celle d'un homme encore jeune. Elle caresse la coque d'Arwil, qui n'a jamais vu la mer. Arwil est calé sur des linteaux. Arwil est tout de chêne et d'acier. C'est la dernière vérification. Bientôt, une grue soulèvera les grosses sangles noires qui l'entourent et le placera sur le camion du convoi exceptionnel qui le mènera au port. Là-bas, une autre grue le prendra, le soulèvera comme de rien. Elle pivotera sur elle-même. Elle allongera son bras. Elle fera descendre le câble de métal. Et, tout doucement, elle le déposera. Arwil touchera l'eau. Le sel de la mer viendra se frotter à la peinture toute neuve. Avant de gonfler, le bois se contractera une seconde comme le corps fait au moment du premier bain des vacances d'été, quand on n'est pas encore habitué à la froidure de l'eau, à la salinité de l'écume. Le téléphone sonne. Le patron du petit chantier naval vient trouver celui qui caresse la coque d'Arwil. Il a les yeux pleins de fierté et de la joie partout dans le corps, devant le chêne et l'acier. Le patron du petit chantier naval le prévient que c'est pour lui. L'invite à prendre la communication dans le bureau, ce qu'il fait. Les fils du combiné, orange ou bien beige, sont embirlificotés. C'est sa femme qui parle. Elle s'appelle Marie-Lou. Lui, c'est Jean. Dans la voix de Marie-Lou, il y a de la peur, de l'angoisse et de l'exaltation. Elle dit qu'elle part pour la clinique. Elle a appelé ses parents, ils vont l'emmener. Elle dit à Jean, celui qui caressait la coque d'Arwil, son mari, mon futur père et celui de mes deux frères, qu'il doit la rejoindre là-bas tout de suite. Elle a perdu les os. « J'arrive, » bredouille-t-il. « Oui, eh bien, grouille tes fesses !» Il raccroche, attend quelques secondes, perdu. C'est-à-dire qu'il a l'esprit vague et le cœur ardent. Il pense, c'est aujourd'hui. Et il sourit. Il annonce au patron du petit chantier naval qu'il s'en va. La mise à l'eau sera pour plus tard. On n'est plus à 2 jours près. Harwil attendra. « Et mon convoi alors ?»« Mais on s'en fout de ton convoi !» Il répond, sans mépris mais fort, car il est déjà loin, et le dos tourné. Je faisais pas loin de 4 kilos à la naissance, et 54 centimètres, quand Harwil mesurait 10 mètres 30 de long, 3 mètres 88 de large, pour une jauge brute de près de 10 tonnes. J'étais un gros bébé. Harwil était un petit bateau. Gamin, je voyais Harwil comme une sorte de grand frère à qui j'aurais volé le jour de la naissance. Tant pis pour lui. Notre père a passé bien plus de temps avec Harwil qu'avec mes frères ou moi, même si nous avons toujours été sa priorité. Le mythe du marin qui sacrifie tout, c'est des conneries, en tout cas chez nous. Mon père était là pour chacun de mes anniversaires. Et cela, quitte à y perdre son quota de Saint-Jacques, parce que, pas de chance pour les sous, je suis né en hiver. Sauf une fois, c'est vrai, pour mes 10 ans, le 4 février 1994, il était absent. Mais il n'était pas en mer. Il participait à une manifestation de pêcheurs à Rennes. Ça avait chauffé dur. Il y avait partout dans la ville des marins en perfecto, d'autres en jogging bariolé, certains en jean bleu pâle. Beaucoup de ces hommes portaient la nuque longue. Les CRS, eux, avaient le cheveu plus ras, bien qu'il fût difficile de le deviner sous leur casque. Ils avaient les mains gantées de cuir. Il y avait partout dans la ville des grenades lacrymogènes, des baramines, des fusées de détresse, des matraques et des manches de pioche. Il y avait partout dans la ville des yeux qui pleuraient et des peaux qui saignaient. À la fin, le Parlement de Bretagne s'était transformé en un gigantesque brasier. Sur le toit du bâtiment, la justice, la loi, la force et l'éloquence, sculptures allégoriques qu'on avait recouvertes de feuilles d'or pour impressionner le peuple, fondirent en un rien de temps. Pêcheurs et flics étaient rentrés chez eux dans la nuit, en pensant que ça avait été une drôle d'histoire, qu'ils en causeraient longtemps. Notre père, lui, n'en parlait pas. En dehors de cet anniversaire-là, notre père n'en a jamais manqué un, ni un Noël, ou un de mes matchs de foot le samedi après-midi. Il se tenait debout, sur la ligne de touche, pas loin de l'entraîneur, et il ne pouvait s'empêcher de lui donner des conseils, de gueuler pour que je me replace, ou d'affirmer que les autres gamins étaient nuls. J'aurais préféré qu'il fasse la pêche ces jours-là. Il était là aussi pour les anniversaires de mes petits frères, pour les pièces de théâtre de Clément dans la salle des fêtes de la commune, à la fin juin, même s'il surjouait comme pas possible, ou les passages de galop de Julien le samedi matin, avant le foot et ses commentaires qui me faisaient honte. C'est notre père qui a relevé Julien du sable siliceux, au bas de la lettre de dressage H, après qu'il a été mis à terre par un hongre indocile et que son bras droit s'est brisé dans la chute. Qu'est-ce qu'il a pu nous prendre la tête avec son bras, Julien? On y a eu droit toute son adolescence. Comme quoi il fallait faire attention à son bras qui était cassé, comme quoi il était tombé de cheval, comme quoi il ne remonterait plus jamais sur un bourrin. Un soir, nous étions déjà tous des hommes et réunis à la maison. Julien est arrivé avec Jérémy et il a dit, en se tenant bien droit, la voix tremblante au début et pleine d'aplomb à la fin. « Je vous présente Jérémy, c'est mon copain. Je l'aime et c'est comme ça. » Notre mère était dans la confidence. Elle a regardé notre père. Elle guettait sa réaction sans la craindre, car elle savait que jamais il n'aurait pu se fâcher avec un de ses enfants. Après quelques secondes, notre père a dit « Est-ce qu'il boit du Ricard au moins, Jérémy ?» Jérémy n'en buvait pas, mais il a fait un effort pour l'occasion. Et à chaque fois ensuite, pour ne pas se dédire, c'est devenu une blague entre nous.